certains taux à très court terme. Les taux longs, eux, sont en forte hausse sur le marché de la dette. Les professionnels de l'obligataire ne croient pas vraisemblablement que la poussée de l'inflation cette année, dopée notamment par les chèques envoyés aux Américains, ne sera que passagère. Ils pensent que la Fed se trompe, qu'elle va devoir relever son taux. En attendant, avec des taux longs en hausse et des taux courts qui restent proches de zéro, l'environnement est idéal pour les banques qui empruntent à court terme pour prêter à long terme. C'était Marjorie Ancelot d'Investir pour LFI.
Merci Marjorie Ancelot et merci à vous de votre fidélité à la Radio du Monde. Il est 18h et bientôt 10 minutes ici à Paris, 17h10 en temps universel.
Radio G 101.5 FM.
Luttons ensemble contre la Covid-19. Téléchargeons l'application Tous Anti-Covid. Oh, franchement, vivement qu'on entende plus ce message. Ah non, vraiment. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Eh bien, plus vous êtes nombreux à utiliser l'appli Tous Anti-Covid, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid, et ce n'est qu'un début. Ceci est un message du gouvernement.
L'écoute de l'oreille curieuse, la quotidienne de Radio G dédiée aux actualités culturelles, aux découvertes, aux expérimentations créatives, à toutes ces choses en même temps. On est très heureux et heureuse de vous retrouver. On est jeudi, c'est le dernier jour de cette semaine pour l'émission, bien sûr. On aura le plaisir de retrouver Benoît et sa chronique consacrée à la science, à la nature, à l'environnement. Et ce sera, comme vous le savez, en deuxième partie d'émission. Vous entendrez également ce soir un reportage sur le dispositif du service civique. Rendez-vous du jeudi oblige. Et pour débuter, ai-je bien fait ou non, je ne sais pas, j'ai confié une carte blanche à Mehdi. Salut Mehdi.
Salut Anne-Lie.
Avec Céleste. Salut Céleste.
Quelle erreur. Salut Anne-Lie.
Quelle erreur. Nous verrons ça. Pour l'instant, je vous fais encore confiance.
Aïe.
On en parle après.
Évidemment.
Alors, vous avez planché sur deux fictions. Vous avez envie nous en dire un peu plus?
Pas forcément.
Disons que c'est... On s'est bien amusé cet après-midi à écrire tout ça, donc j'espère que ça va vous plaire.
Ok, ce sera dans pas très longtemps, juste après notre premier titre. Et avant de vous dire lequel j'ai choisi, la citation, slash dicton, slash proverbe, slash débrouillez-vous avec ça de ce soir est de Sartre. Dans une pièce de théâtre dont j'ai oublié le nom et que vous allez retrouver en tant que personne pleine de références culturelles. La citation de ce soir, c'est « L'enfer, c'est les autres ». Tout le monde a déjà entendu ça?
Oui.
Bon, je vous laisse juger. Nous, on va débuter avec un titre de François and the Atlas Mountain, une sortie récente, et le titre s'intitule « Holy, go lightly ».
Places we'll never see, where there's wind around.
Ouvre, Brandon.
C'est toi, Michael?
Comment as-tu pu me faire ça?
De quoi tu parles, Michael?
Je sais que c'est toi.
Que c'est moi quoi?
Que c'est toi qui...
Moi qui?
A pris le dernier donuts à la boulangerie.
Ah non, tu sais, je ne mange que des pains au chocolat.
Tu sais bien que je suis toulousain, c'est un affront. Chez moi, on dit
chocolat. Je m'en bats les couilles. De toute façon, il n'y avait plus de pain au chocolat. Du coup, j'ai pris un croissant.
Et le donut?
Je n'y ai pas touché à ton donut. Je trouve ça beaucoup trop gras, moi qui fais beaucoup de sport tous les jours.
Avec ma femme?
Exactement. Pendant que tu t'enfiles tes donuts, moi je m'enfile ta femme.
Quoi? Ma femme est un donut?
J'y ai pas touché à ton donut. Tu vois, c'est pour ça qu'elle te trompe. T'es beaucoup trop con.
Peut-être, mais moi au moins j'ai pas pris le dernier donut à la boulangerie.
J'y ai pas touché à ton donut.
Menteur, tu te répètes et tu connais mes habitudes. Je sais que tu l'as pris. Je t'ai suivi.
Tu m'as suivi?
Je t'ai suivi.
Tu m'as suivi?
Exactement, j'ai trouvé où tu habitais.
Mais t'es con, tu es mon frère. Tu sais où j'habite?
Exactement, et maintenant, tu vas mourir.
Je vais quoi?
Tu vas mourir.
Je vais quoi?
Tu vas mourir.
Oh, je vais mourir?
Exactement, prépare-toi.
Lâche tout de suite ce couteau à Bredou.
Encore un affront? Tu sais bien que je suis breton, en plus d'être toulousain. Et par conséquent, je ne mange que du beurre salé.
C'en est trop, tu vas mourir.
Exactement, attends, non!
Et voilà, je vais maintenant me débarrasser du corps.
Mais qu'as-tu fait, mon fils? Tu as tué ton propre frère.
Oui, quand il m'avait accusé d'avoir pris le dernier donut à la boulangerie.
Mais tu l'as pris, le dernier donut à la boulangerie.
Exactement. Mais maintenant que tu le sais, tu vas mourir.
Je vais quoi?
Maintenant, je vais me débarrasser des corps. Je vais les mettre dans ce jukebox. Oui?
Bonsoir, je suis Beau.
Effectivement.
Non, c'est mon prénom.
Exactement. Qui êtes-vous?
Monsieur Beau.
Et du coup, c'est quoi votre prénom?
Bah, Beau.
Vous êtes Beau?
Oui, mes parents n'avaient pas beaucoup d'imagination ni d'originalité.
Ah, je ne vous aime pas.
Je suis inspecteur de police.
Je vous aime, entrez.
Merci. On nous a signalé un vol de donuts. Un certain Michael nous a contacté et a affirmé avoir pisté le voleur jusque chez lui.
Je ne connais pas de Michael.
Ah, pardon. Mike, peut-être?
Non plus.
Mickey?
Non.
Loïc?
Exactement.
Ah, vous le connaissez?
Non, mais laissez-moi vous offrir un donut.
Ah, c'est marrant, parce qu'on recherche justement un voleur de donuts, mais je suis sûr que cela n'a aucun rapport.
Si vous voulez, j'ai des pains au chocolat aussi.
On dit chocolat! Vous n'avez pas entendu quelque chose?
Non.
D'accord, je vais poursuivre mon enquête. Merci pour le donut.
Je vous en prie.
Je vois que vous avez un jukebox.
Exactement.
Qu'est-ce que vous avez comme musique dessus?
Oh, vous savez que des artistes morts, Claude François, Jack Brel, mon frère Georges Brassens, ma mère Hempokora.
Il nous a tués.
Tiens, je ne connais pas, c'est pas cette chanson.
Ah oui, pourtant c'est un classique. Il nous a tués.
Je vois. Passez une bonne journée.
À vous aussi.
Merci. Mais attendez une minute. Les carreaux de ce carrelage ne sont pas parallèles?
Exactement.
Ce genre de carrelage n'a été produit qu'en 1967 par l'entreprise Bouchety, qui a fait faillite depuis. Il n'y a eu que 3 acheteurs de ce genre de carrelage, dont un certain Loïc. Les fondations de cette maison sont assez vieilles, indiquant qu'elle a été construite le 12 juillet 1924, qui était un samedi. Or, la boulangerie qui vend les donuts à côté de chez vous a été construite en 1745, ce qui veut dire que vous avez pour habitude de prendre des donuts, ce qui a amené au meurtre de votre frère et de votre mère que vous avez effectué.
Exactement.
Embarquez-le! Mince.
Dans un autre registre complètement différent, Céleste et Mehdi ont eu l'idée d'écrire un cadavre exquis. Alors pour rappel, ça veut dire que chacun a écrit des paragraphes indépendants et qu'on se passe tour à tour la dernière phrase du paragraphe pour écrire le suivant. Mehdi va lire ce qu'a écrit Céleste et Céleste va faire de même. On vous offre ce cadavre exquis.
Au milieu des landes de brume, des vastes étendues d'herbes et de ruines que le temps n'a pas épargnées, il attend. Il patiente. Son regard est porté au loin, vers les mystiques lacs de l'ancienne Écosse. Il est le dernier survivant de sa lignée. Il est le vestige d'une histoire qui a duré bien trop longtemps. Il soupira doucement. Il prit son arc, enfila son carquois rempli de flèches et s'engouffra dans la forêt, dont l'entrée était marquée par de runes mystiques.
Il vit un ours aux couleurs étranges. Celui-ci était rayé de marron, de rouge. Certains poils brillaient tels de l'or. Cet ours, en réalité, était le roi des ours, le célèbre Pampelupa, qui donnait aux aventuriers horreur et prospérité. C'était lui qui décidait du droit de vie ou de mort sur les hommes rentrant dans sa forêt.
Car c'était son terrain de jeu. Il vivait ici depuis tout petit. Il connaissait chaque recoin, chaque arbre, chaque feuille, chaque animal qui passait. Il avait appris à se camoufler, à se cacher du regard des autres. Il ne permettait pas qu'on vienne sur son territoire pour chasser ses amis. Ce n'est pas pour autant qu'il ne la sentait pas. Chaque fois qu'il venait, il sentait une force mystérieuse l'attirer vers le centre de la forêt.
Il décida de s'y engouffrer et il y découvrit une fée. Elle s'appelait Nancy. Il discuta avec elle pendant des heures et il apprit plusieurs vérités sur la vie elle-même. Ensuite, avant de partir, celle-ci lui donna une claque dans la tête. Il ne comprit pas le geste sur le coup, mais il sentit que ce geste était lourd de sens.
Un frisson désagréable parcourut son dos. Son sang glaça ses veines. Ce geste l'effrayait sans raison apparente. Il ne devait pas rester ici. Il devait fuir, loin, très loin. Il devait courir, plus vite que ses jambes ne l'avaient fait. Sans tenir compte des éléments, il s'élança. Il sentit le vent sur son visage, les branches lui griffaient le bras. Il devait courir, loin, s'enfuir, très loin. Il courut, le plus loin possible, le plus vite possible. Il devait à tout prix s'échapper.
Il arriva au bord d'une falaise et le choix qui s'offrait à lui fut difficile. Il choisit donc de sauter au lieu de combattre et se retrouva dans une grande étendue d'eau souterraine. C'est là qu'il fait la rencontre d'un géant poisson rouge qui semblait perdu.
Il était majestueux, semblant sortir directement des flots, un être à la fois réel et irréel. L'homme n'en croyait pas ses yeux. Il voulait lui adresser la parole, mais les mots lui manquaient. Il était bouche bée devant cet habitant des eaux. Le poisson ne parla pas non plus. Après tout, cela n'était qu'un poisson. Cependant, à la grande surprise de l'homme, la créature s'adressa à lui dans un phrasé des plus corrects.
« Je vais te mettre un pain, mon copain. » Choqué par ce langage, notre héros décida de s'en éloigner. Il avait eu son lot de créatures bizarroïdes. En regardant vers le ciel, il vit une île céleste. Il se dit qu'il aimerait beaucoup pouvoir y aller et espérait enfin y rencontrer une forme de civilisation évoluée.
Il se souvenait de cette île. Il se souvenait de ce que sa mère en disait. La Piuta, la cité des nuages. Une terre de connaissances et de savoir. Tombée en disgrâce il y a des milliers d'années en même temps que l'Atlantide, disait-on. Si seulement il avait un moyen d'y aller. Même si l'île n'était qu'un tas de ruines actuellement, il pourrait peut-être y trouver de quoi satisfaire ses envies.
C'est là qu'il vit un restaurant de makis et de sushis géants, avec une mer de sauce soja et une montagne de wasabi. Le directeur du restaurant lui annonce alors un défi qui lui donnerait gloire et triomphe. Manger 3 makis et 3 sushis géants.
Bien que l'offre le tentât, il repensa à sa rencontre avec le poisson rouge géant. Il ne pouvait décemment pas accepter, en sachant qu'il allait sûrement manger un des compatriotes du majestueux animal. Alors il refusa. Le directeur lui sourit et annonça que c'était cela, la réelle épreuve. Il le félicita et lui tendit une couronne sertie de joyaux lumineux. C'est ainsi que son nom fut inscrit dans la légende. Il a depuis nettoyé l'île céleste et s'y est installé. Il y est heureux et n'a jamais eu d'enfant.
Thank you.
Vous avez très certainement reconnu Dave Brubeck avec son célébrissime Blue Rondo à la turque. J'ai choisi un grand classique pour faire une transition après cette fiction très intense, ces deux fictions. Merci Céleste, merci Mehdi.
De rien, ça fait plaisir.
Génial. Bien sûr, vous êtes à l'écoute de L'Oreille Curieuse sur Radio G et on va bousculer un peu le programme que je vous ai annoncé pour parler dès maintenant de science, de nature et d'environnement avec Benoît. Benoît, est-ce que tu nous entends ?
Est-ce que oui, je suis là.
Super.
Donc c'est toujours un vrai miracle quand ça marche comme ça à distance, c'est vraiment chouette.
Ouais.
En tout cas, bravo à l'équipe de Radio G de pouvoir te permettre ça au niveau technique, c'est vraiment sympa. Mmh. Donc ça vaut pas la présence dans le studio, mais c'est quand même sympathique de pouvoir continuer
à distance. On essaie de réduire les frustrations.
Voilà, c'est super.
Alors, qu'as-tu mis dans la besace de la chronique du jour ? Tu nous avais laissé avec une attente.
Ouais, je vous ai laissé avec une attente la semaine, il y a 15 jours. Et j'espère que je vais assouvir cette attente. Mm-hmm. En attendant, j'ai quelques infos d'actualité. En l'occurrence, des infos locales, puisque tu le sais sans doute, mais tous les ans a lieu un concours, en tout cas dans les pays francophones, qui propose aux jeunes doctorants, donc des gens qui sont en cours de thèse, de doctorat, de présenter leurs travaux de recherche en 3 minutes. Mm. Alors ça s'appelle « Ma thèse en 180 secondes ». Donc c'est un exercice assez difficile parce qu'il s'agit d'expliquer des sujets parfois très complexes.
Des années de recherche.
Très théorique, des mois, des semaines, ou ouais, des années de recherche. Parfois, une thèse, hein, ça dure 3 ans. En tout cas, l'idée, c'est que les étudiants présentent leurs problématiques. Mais voilà, c'est un peu c'est théâtralisé, quoi. Le principe, c'est d'avoir une image derrière soi, une image fixe qui symbolise les recherches. Donc, ça peut être un schéma, des diagrammes, quelques phrases. Bon, ça dépend vraiment des sujets. Ainsi que, après, 3 minutes pour développer, avec des styles propres à chaque candidat, c'est assez intéressant. Donc, ce concours a lieu tous les ans et il a aussi lieu localement à Angers. Mm-hmm. Alors, il y a 15 jours, c'était la finale angevine. Donc, il y a eu un concours avec des finalistes angevins qui se battaient pour. Il y avait 2 places offertes aux 2 premiers pour aller dans une finale interrégionale entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc, ces concours ont eu lieu, notamment pour la finale Bretagne-Pays de la Loire, c'était hier soir. Et j'encourage tous les auditeurs à se rendre sur YouTube pour voir les résultats et les propositions des candidats. C'est tout à fait intéressant. Et puis, ça donne une bonne idée de ce qu'on fait en recherche, de quels sont les sujets d'actualité dans la recherche, hein, puisque... C'est la recherche en train de se faire. Donc, l'exercice est intéressant. Alors, c'est pas fastidieux. C'est pas des conférences de 2 heures, sur des thèmes compliqués. C'est vraiment sympathique à regarder, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Donc, allez voir. C'est disponible sur Internet.
Ma thèse en 180 secondes. Et puis, au pire, on a perdu 3 minutes si ça nous plaît vraiment pas. Donc, il n'y a pas beaucoup de risques.
Non, il n'y a vraiment aucun risque. Et puis, en plus, on ne les perd pas les 3 minutes. C'est intéressant de voir les efforts qui sont faits par les candidats. Donc, je rappelle, c'est pas le métier d'être en stand-up devant du public ou un jury et de proposer une sorte de. Alors, c'est pas vraiment un sketch, mais parfois c'est assez drôle. Enfin, il y a vraiment des trucs sympas.
Et puis, faire court, en plus, souvent, c'est hyper dur.
C'est très, très compliqué. C'est vraiment un exercice compliqué. Alors, mention spéciale à eux cette année, ça a été d'autant plus compliqué qu'ils ont eu un temps de préparation assez faible. Avec très peu de choses, souvent en distance, en distanciel, donc c'est pas vraiment simple pour préparer ça. Mais allez-y et profitez. Deuxième petite actu. Donc il y a un appel à projet qui est encore en cours là pour. Alors c'est plutôt pour les jeunes, dans les écoles. Alors s'il y a des instituteurs ou des animateurs de centres de loisirs qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Et en tout cas, comme tous les 2 ans, à Angers, on organise une expo-science. Alors, une Expo Science, je lis le texte de la présentation, c'est une initiative qui met les jeunes au cœur de projets scientifiques et techniques en les incitant à échanger avec le public. Donc voilà, c'est une sorte de mini-exposition vivante d'un projet auquel ont participé des jeunes. Donc ça se présente par... les jeunes peuvent monter ça par petits groupes, alors soit dans un cadre scolaire, dans un cadre périscolaire, dans un cadre d'activité de loisirs. Et ils choisissent un thème de leur choix. Alors, ça peut toucher à la cuisine, au mouvement, comment un moteur de voiture fonctionne, etc. Enfin, c'est vraiment très ouvert, mais l'idée, c'est que les jeunes, enfants ou adolescents, c'est de 5 à 25 ans, eh bien, présentent une démarche scientifique, leur réflexion, leur cheminement intellectuel et les questions qui sont posées pour arriver à expliquer tel ou tel phénomène. Donc c'est vraiment intéressant de sensibiliser dès cet âge, dès les plus jeunes, à la culture scientifique. Et du coup, il y a l'exercice, c'est aussi de montrer ça à du public. Alors, cette année, l'Expo Science angevine aura lieu au musée des Beaux-Arts, enfin à l'extérieur, dans la cour du logis Barreau. Donc voilà, c'est tout à fait intéressant. Alors, il y aura en prime, normalement, un accès pour les participants à l'exposition qui aura lieu à ce moment-là au musée des Beaux-Arts, qui est l'exposition de paléontologie, donc une exposition scientifique. Donc c'est tout à fait intéressant. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre chronique. Donc voilà, Expo Science, vous allez sur le site de Terre des Sciences, vous avez toutes les infos. Il y a aussi le site Expo Science Pays de la Loire, général, avec les pages Maine-et-Loire, où tout est expliqué, comment y participer. Donc j'encourage aussi tout le monde à se renseigner à ce sujet.
Eh bien, merci et bravo d'avoir réussi à faire un agenda.
Ouais, c'est compliqué. Pas mal. Enfin, bravo à ceux qui organisent ces événements aussi, surtout. Mmh. Ouais. Moi, je ne fais que relayer. Alors maintenant, passons à l'actualité scientifique. Donc, si on attend, il y aura deux sujets ce soir. Alors, le premier, c'est bien sûr celui que j'avais pas eu le temps d'évoquer la semaine il y a 15 jours. Alors, souvenez-vous, on avait parlé d'extraction d'ADN dans des restes d'éléphants anciens, de mammouths primitifs de plus d'un million d'années. Donc c'est un record pour l'extraction d'ADN. Il y a aussi une actu qui est tout à fait intéressante et qui est une sorte de record, mais alors c'est pas du tout dans le même esprit, mais c'est à peu près les mêmes. Tu vas voir, ça touche la même thématique. On a découvert dans une grotte en Palestine les restes de néandertaliens les plus méridionaux. Voilà, on n'avait jamais découvert d'hommes de Néandertal aussi loin vers le sud. Alors, il faut savoir, je rappelle que l'homme de Néandertal, c'est typiquement un Européen de l'Ouest. Vraiment, c'est là qu'il est né, et c'est là qu'il a disparu aussi. Il est arrivé, enfin, c'est une lente évolution, mais il y a des hominidés qui sont arrivés en Europe il y a très longtemps, qui n'étaient pas des hommes de Néandertal ni des hommes modernes, hein, donc des hommes plus anciens type Homo erectus, on va dire, pour résumer. Et donc il y a tous ces hominidés ont évolué et l'homme de Néandertal est vraiment caractéristique de l'Europe de l'Ouest, donc l'Europe plutôt du Nord, hein. Mais on ne sait pas trop comment il a circulé au niveau de l'Europe et s'il a été au sud. Et la grande question, c'est est-ce qu'il a été en Afrique, bien entendu. Hein, on n'a pas encore découvert de reste de Néandertaliens en Afrique. Mais là, on les a découverts, figure-toi, donc, en Palestine, dans une grotte en Palestine. Donc, c'est une découverte vraiment intéressante pour deux raisons. Alors, la première, je viens de le dire, c'est qu'on n'en a jamais découvert...
À cet endroit-là
aussi loin vers le sud de l'Europe. Et puis, la deuxième, c'est qu'elle est associée à une industrie archéologique tout à fait intéressante et originale. Alors, je vais m'expliquer un peu plus tard. Cette grotte, il faut rappeler qu'elle a été fouillée par une Anglaise en 1928, donc, qui a trouvé des outils en pierre, des os cimentés, etc. Enfin, classiquement, ce qu'on trouve dans une grotte, ainsi qu'une grande molaire. Une molaire humaine, voilà. Une molaire unique. Donc cette molaire, cette dent, elle a été conservée dans une collection privée pendant une grande partie du XXe siècle. Et finalement, elle a atterri dans un musée, ce qui a permis aux chercheurs d'examiner à nouveau. Et donc, les études ont montré qu'elle appartenait à un jeune néandertalien âgé de 7 à 12 ans.
Ah ouais.
Donc voilà. Alors la curiosité, c'est que On est sur le chemin vers l'Afrique, en fait, quand on est en Palestine. La Palestine, c'est quand même tout près de l'Afrique. Il y a quelques dizaines, centaines, voire dizaines de kilomètres à faire vers le sud. Et puis, on arrive vraiment dans l'Afrique du Nord-Est.
Vers l'Égypte, oui.
Voilà, c'est ça. Donc, on est vraiment tout proche. Donc, voilà. Ça nous conforte dans l'idée que finalement, ils y sont peut-être parvenus, les Néandertaliens, en Afrique. Après tout, ils allaient vers le chaud, des climats plus tempérés, même si c'était un homme très, très acclimaté au climat rude de l'Europe du Nord, notamment dans les périodes glaciaires. Il faut savoir qu'il était vraiment, entre guillemets, équipé pour vivre dans ces climats rudes. Je pense que l'attrait aussi de climats plus doux, avec une faune peut-être plus nombreuse, c'était sûrement pas inintéressant pour lui. Donc là, on a déjà une première piste. Oui, vu on l'a trouvé là dans Palestine, c'est probable que, en tout cas, peut-être qu'ils y sont allés, mais on n'en a toujours pas trouvé en Afrique. La deuxième information intéressante, c'est que parmi les outils qui ont été trouvés là-bas, ce sont typiquement des outils d'hommes modernes, donc Homo sapiens.
Donc nous.
Donc, a priori, des outils donc fabriqués par moderne et pas forcément par l'homme de Néandertal. Or, c'est la première fois, enfin, c'est une des rares fois où on a trouvé de l'outillage d'homme moderne vraiment dans les mêmes couches, du même âge que des restes de Néandertaliens. Donc, ça suggère que, d'une part, possiblement, ces Néandertaliens avaient aussi une capacité à faire ces outils d'hommes modernes. Donc, bon, on sait qu'ils étaient doués de culture, ils faisaient eux-mêmes leurs outils, et ils ont très bien pu copier ou faire les mêmes outils que des outils trouvés, ou mieux, il y aurait peut-être eu des échanges culturels entre les deux populations. Il faut savoir qu'à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité, l'homme de Néandertal a été très proche de l'homme moderne. Et on a identifié au moins deux moments dans l'histoire, un moment ancien et un moment plus récent, où ils auraient pu se mélanger génétiquement, c'est-à-dire s'hybrider. Donc voilà, c'est vraiment une découverte intéressante publiée par donc ces chercheurs de l'Institut Max Planck en anglais. Donc c'est tout à fait intéressant. Alors c'est une affaire à suivre, et notamment savoir si, d'une part, on peut véritablement associer l'outillage en termes de fabrication à Néandertal. Ça reste encore, c'est compliqué de trouver les vrais indices, surtout quand on a une dent dans le gisement, la dent d'un enfant, c'est pas facile.
C'est des enquêtes, compliquées.
Et la deuxième chose, bah, bien sûr, c'est cette histoire de l'homme de Néandertal en Afrique. Y est-il allé? Là, on n'a pas encore la réponse, mais en tout cas, il n'était pas loin. Donc, affaire à suivre.
Ouais,
pour résumer,
une affaire au très long cours.
Exactement. Mais c'est tout l'intérêt des recherches archéologiques et paléontologiques, c'est qu'elles sont les connaissances arrivent au gré des découvertes. Donc ça ça ménage tout l'intérêt sur ces thématiques-là. Donc on est un peu tout, ça nous tient en haleine en fait.
Puis j'aime toujours moi quand tu nous donnes des nouvelles de Néandertal.
Ah ouais.
De la famille Néandertal, ouais.
C'est ça, bah c'est notre cousin, c'est un cousin, il est très proche de nous, hein, donc c'est toujours intéressant.
T'avais une autre actu.
Ouais, une autre actu si vous voulez. Alors je voudrais répondre à une question qu'on nous pose assez souvent dans l'histoire de la Terre et on le voit ici. Alors je sais pas si t'as déjà eu l'occasion d'aller te promener à la campagne.
Oui.
Alors ça oui.
Ça oui.
Mais disons à la campagne à proximité d'Angers, notamment un peu à l'est d'Angers, où quand on se promène dans les champs, ben on trouve des choses vraiment bizarres. Qui ressemblent à des huîtres. Il y en a plein partout quand les champs sont labourés. Alors c'est vraiment curieux, on se balade, mais il y a des huîtres partout. Et en fait, ce sont des vraies huîtres. Hein. Sauf que ces huîtres-là, elles ont plus de 80 millions d'années.
Ah bon?
Ouais, voilà. Et donc, il y en a pas mal. Donc,
fait beaucoup d'infos d'un coup. Il y a des huîtres dans des champs, déjà, qui ont plus de 80 millions d'années.
Alors ça c'est la valeur absolue, la valeur ajoutée, mais en tout cas oui effectivement, et les gens qui se promènent un peu dans la nature ont un peu l'habitude de ça. Alors et puis quand on fait attention, on trouve pas que des huîtres, hein, y a d'autres types de coquillages qu'on trouve. Alors eh bien figure-toi que ces huîtres là, elles sont les témoins d'une mer ancienne qui a baigné l'Anjou, et en fait il faut savoir que la mer a de nombreuses reprises elle a couvert la Terre en Chine, hein, et jusqu'à assez récemment, hein, jusqu'à 5 à 3 millions d'années, il y avait encore la mer ici. Alors elle est venue et repartie à de nombreuses reprises, hein, dans l'histoire de la vie de la Terre, et ça, je voulais juste prendre quelques minutes pour expliquer un peu, mais parce que c'est pas enfin, je sais pas, tu pourrais peut-être m'expliquer pourquoi il y a eu la mer ici et qu'aujourd'hui on est à l'air libre. Est-ce que tu as une idée des raisons?
Ah oui, je me retrouve à la place de la spécialiste. Je sais pas, c'est peut-être vraiment, j'en ai aucune idée, mais est-ce que c'est un mouvement du sol, des plaques?
Alors, c'est une très bonne hypothèse. Effectivement, il y a les mouvements du sol. Alors, on sait que la surface de la Terre, hein, elle est formée de plaques qui bougent les unes par rapport aux autres. Alors, des fois, elles vont les unes sous les autres, des fois, elles se percutent et elles se chevauchent, ça peut faire des chaînes volcaniques. Parfois, elles se percutent, mais elles se compriment, et du coup, ça fait des chaînes de montagnes. Bon, donc, tu as raison, effectivement, ces mouvements-là peuvent entraîner, par effet logique, hein, des arrivées ou des sorties de l'eau des continents. Mmh. Il s'avère que si un morceau de continent qui s'affaisse, ça va permettre l'arrivée de l'eau. Tout simplement, il peut y avoir des mouvements de bascule, des fissures qui se créent, etc. Et donc l'eau peut arriver. Donc ça, c'est un premier paramètre qui est tout à fait intéressant. Et donc c'est un des paramètres, c'est une raison, on va dire, tectonique. Donc il y a d'autres raisons qui sont l'autre raison principale, elle est d'ordre climatique. Alors il faut savoir que par exemple aujourd'hui sur les continents, Il y a l'équivalent de 75 mètres de glace. C'est un lapsus. Il y a l'équivalent aujourd'hui sur Terre de 75 mètres de niveau marin. C'est-à-dire que si aujourd'hui toutes les glaces qui sont sur les continents
fondent,
y compris l'Antarctique, le Groenland, hein, c'est les Inlandis, les calottes glaciaires les plus importantes, elles sont en Antarctique et sur le Groenland. Donc si toutes les glaces des glaciers qui sont sur les continents, elles fondent aujourd'hui, on aurait une élévation du niveau de la mer de 75 mètres.
Et donc, on serait sous l'eau à Angers ?
Écoute, Angers, aujourd'hui, on est entre 40 et 50 mètres d'altitude.
Ah oui, donc on serait sous l'eau, quoi.
Voilà. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'en fonction des quantités de glace sur les continents, dans l'histoire de la Terre, eh bien, le niveau de la mer, il a fluctué.
Mmh.
Tu vois ?
Ouais.
Donc, par exemple, à l'époque glaciaire, où il y avait beaucoup plus de glace sur les continents, où notamment une partie de l'hémisphère nord était recouverte par un Inlandsis géant, donc un glacier géant qui arrivait jusqu'au Danemark, jusqu'en Belgique. Il y avait des glaciers aussi en Auvergne, il y avait des glaciers dans les Alpes. Donc le niveau de la mer était beaucoup plus bas à cette période. Donc la mer était retirée assez loin au large de l'Atlantique, quelques kilomètres plus loin au large de l'Atlantique, et la Manche était aussi à sec, puisque c'était une grande prairie qui était habitée par les mammouths et tous les herbivores de l'âge de glace, quoi, tu vois.
Ça devait être tellement mignon.
Oui, ça devait être sympa. Et donc, l'Angleterre n'était pas une île. Alors là, ça, est-ce que c'est sympa? J'en sais rien. C'est une blague. Tout ça pour dire qu'effectivement, l'autre facteur qui est très important, c'est le climat, et notamment la quantité de glace qu'il y a sur les continents. Et enfin, donc c'est aussi lié au climat. Il y a un facteur qui joue un rôle aussi, c'est que en fonction de sa température, l'eau elle occupe un volume plus ou moins important. Et il s'avère que de l'eau chaude, on peut dire qu'elle se dilate et elle occupe un volume plus grand. Donc plus la température moyenne de l'eau des mers, des océans est grande, plus elle occupe un fort volume. Donc son niveau, il est plus important.
Ah ouais, j'y avais jamais pensé. Donc
je te donne un exemple. À l'époque de la plus grande, on va dire, invasion marine dans notre région, c'est à l'époque du Turonien, du Cénomanien. Donc je te dis, c'est à cette époque dont je parlais tout à l'heure avec les huîtres. Donc c'est entre 88 et 92 millions d'années. Eh bien, la mer, elle était à un niveau marin de 300 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Alors les continents avaient une autre disposition. L'Anjou était pas où il était, où il est. Il était beaucoup plus au sud, hein. Mais en tout cas, les niveaux marins étaient beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. C'est la période de la de l'histoire de la Terre où ils étaient les plus élevés. Et on, il s'avère que la l'eau était beaucoup plus chaude aussi. C'est une époque où il n'y avait pas de glace sur les continents, donc ni de glace au pôle. Et donc c'était l'eau était fortement dilatée. Il faut savoir que les températures moyennes, alors je me souviens d'une publication scientifique qui expliquait cela, ça m'avait un peu bluffé. La température moyenne de l'eau de l'océan au milieu de l'Atlantique, c'était aux alentours de 35 degrés. Donc c'était de l'eau chaude en fait, quasiment. Donc tu vois un peu, donc cette eau occupait un volume plus important que la même eau à une température plus froide. Donc tous ces éléments avec les histoires de plaques tectoniques, etc., ont fait que l'eau était baignait toute l'Europe de l'Ouest en fait.
Des courants, tout ça bouge à fond quoi.
Voilà, et ça on trouve des traces. Donc aujourd'hui, quand tu pointes dans certains champs, tu vois des huîtres qui viennent de marnes en fait. Il y a des marnes à huîtres. C'est des quantités phénoménales de coquilles qui sont déposées à cette époque-là. Il y a plus presque 90 millions d'années et on les trouve aujourd'hui. Donc voilà comment la mer a pu recouvrir les continents et comment probablement ça arrivera dans l'histoire de la Terre. Hein. Mais ça se passe à des échelles de temps.
On sera plus là. Hein. Bah oui.
Et évidemment, alors nous on voit les niveaux marins augmenter hein, tous les jours si on est au bord de la mer avec les marées. C'est aussi une façon d'observer l'élévation du niveau marin. Mais bon, c'est cyclique, c'est-à-dire que ça monte, ça descend sur une petite amplitude. Là, pour à l'échelle des temps géologiques, c'est des amplitudes beaucoup plus importantes. Donc voilà, c'était le
focus géologie.
Le petit focus sur la mer en Anjou.
Très bien, on peut aller
alors,
se promener.
Alors elle est à plein de reprises. Hein. Il y a plus de 400 millions d'années. Par exemple, l'Ardoise, c'est des sédiments marins. Hein. C'est une mer qui baignait l'Anjou il y a 470 millions d'années. Et c'est juste une vase. Qui a subi un fort métamorphisme dans les âges géologiques hein, pendant des millions d'années, mais c'est juste un fond marin, l'Ardoise. Donc, c'est des choses tout à fait intéressantes quand on décide de les observer un peu. Quoi.
Ouais.
Donc, j'encourage les gens à observer les cailloux aussi. Et ce qu'il y a dans les cailloux, c'est tout à fait passionnant.
Oui, tu es inarrêtable ce soir, Benoît. Je
et donc,
sais
j'arrête,
pas.
Il est moins 5. Là, je t'ai grillé la fin de l'émission.
T'as pété tous les scores. Mais moi, j'étais très heureuse d'entendre parler de toute cette géologie de Néandertal. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces infos. Si on trouve des huîtres, donc peut-être qu'elles sont vraiment, vraiment, vraiment vieilles. Et c'est bien.
Ouais, il faut les garder.
Il faut les garder. Un collier pour la fête des mères.
Des huîtres de 88 millions d'années, quand même, c'est quelque chose.
Hein. Ah bah quand même, voilà, vous mourrez moins bête, comme on dit.
Exactement.
Merci beaucoup, Benoît, on te retrouve dans 2 semaines.
Merci, et à dans 2 semaines, hein. Bonne soirée.
Oui, je te relance pas sur d'autres sujets, mais vraiment, il y a plein de choses à se dire, quoi.
Ouais, pas de problème.
Très bonne soirée, à dans 2 semaines. Merci à vous tous, à vous toutes d'avoir été à l'écoute de l'émission. Je suis sûre que vous avez pris des notes sur tout ce qu'on vient d'apprendre ou de réapprendre, parce que c'est un sujet que tout le monde maîtrise, hein, la géologie. Moi, j'apprends encore, grâce à Benoît. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Radio G, www.radio-g.fr, donc avec cette chronique, avec la fiction qu'on a eue en début d'émission. Le reportage sur le service civique, on le retrouvera la semaine prochaine. On a tout décalé pour la science. Nous, on se retrouve lundi à 18h10. Il y aura la conquête du son. Tu sais déjà de quoi tu vas nous parler, Mehdi ?
À peu près.
Ouais. C'est très flou pour nous.
Un bassiste, je pense.
Un bassiste. Bon, ouais. Rendez-vous lundi. Il y aura Émilie avec le croque-philo. Voilà pour la proc de la semaine prochaine. Si vous voulez nous écrire, on a un formulaire de contact sur notre site internet. On a aussi des pages sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook.
N'hésitez pas.
Céleste, un mot pour conclure ? Je te réveille. D'accord. Ok. Voilà tout ce qu'on pouvait se dire avant la fin de cette émission. À 19h, alors bien que nous sommes jeudi, vous allez retrouver Band Geek Mafia, le magazine Info Culture, car en fait ils avaient prévu une émission hier. Petit souci, vous les retrouvez ce soir, mais c'est toujours un plaisir. Et à 20h, vous retrouverez Droit Devant. Très bonne soirée.
Bonne soirée à vous.
Bonne soirée.
Et surtout, excellent week-end. Bien
sûr.
Et en fait, dans 4 minutes, si vous êtes fan de Jean Castex, il passe à la télé.
Moi, je suis fan
et à la
de
radio.
Jean Castex.
Un voilà. Super sketch. Perspective.
Bonne. Bonne soirée, Alain.
Mais moins bon que le nôtre.
Radio G 101.5 FM.
Welcome to the Jazz Alley. Check it out. Cool. Synonymous with the rhythm, omnidirectional like light off a prism. No doubt my favorite color of jazz is a blue note. Lifelong commitment to intelligent sound design, wrote by great minds like Ron Carter on bass lines. Genuine work to take time, no overnight success, but heavy passion to come fresh. Inspired by life and death, I'm committed to inject the dialect of the best kept secrets that haven't been heard yet. To those just joining in, thank you for tuning in. Part of my dust, let's proceed with the building. We got the jazz. No okie doke, we got the jazz. Part of me, we got the jazz. Guarantee we got the jazz. Check it out. Vibes here are mixed with soul, powerful after letting the horns blow. Oh, Watts has got the short shot, yes indeedy. Widespread coverage, wall to wall with graffiti. Tagging my name in the depths of your ear holes with visual voice sketching from mind to the soul. Touch and go, breathe and stop. Wait up, Sean Lee, pump the brakes and swing a little and break up.
When I'm in this rap songs, people look bold. No, we're not your average cats, not at all.
Foots got loose here, body started breaking. Don't want to fight the feeling, no room for faking. Cast dancing on the ceiling, swinging in the back lot. Even the cops couldn't arrest to make them stop. Turn into a ballroom blitz as if a lunar eclipse. And giving people a shift, they got the gift like pow. Get out the way before you get mopped. Standing still in Glover Lane. 4x4, 4x4, whatever the time. We got more if you want in store with the raw. See it takes two. Let's continue to pursue this walk on up Jazz Avenue. Haunting energy, let it be. Nothing but the real. I'm out, y'all. One love widespread for you to feel. We got the jazz. Yeah. No okie doke, we got the jazz. Excuse me, we got the jazz. Yes, indeed, guaranteed, we got the jazz. Sean Lee, turn it out. Come straight ahead with raw energy, synergy, for eternity, peace.